saignée aux quatre veines, l'horizon accouche par césarienne d'un jour qui, finalement, n'aura pas mérité sa peine. Les temps sont durs. Une petite imprudence et la foudre vous tombe dessus comme un rapace affamé sur un rat des champs. Vous avez beau prier tous les saints du bled, aucun d'eux n'oserait vous répondre, de peur de se faire encenser avec sa propre barbe avant d'être égorgé comme un mouton sacrificiel par les pseudo-djihadistes de l'Apocalypse. Tout le monde se planque quelque part, une main sur la bouche pour garder le silence, l'autre sur les yeux, pour pouvoir jurer sur le masraf qu'on n'a rien vu sans offenser le Seigneur. Elle est bien loin l'époque où l'on se comptait fleurette en paradant gaillardement sur la moutonnière, la poitrine gonflée à bloc de ferveur patriotique, le pas cadençant la marche de tous les défis. C'était l'époque où Alger était la Mecque des héros et des militants des grandes causes, la citadelle imprenable des briseurs de chaînes, la base arrière des opprimés et des prophètes en quête de nouvelles réformes, la place d'armes des révolutions. Mais bon, rien ne dure en ce monde, ni les promesses, ni les serments, ni les empires, ni les conquérants. C'est dans la nature des êtres et des choses. La lune ne décroît-elle pas au lendemain de sa plénitude? Nous avons cru aux étoiles filantes, et nous avons pris des comètes pour des révélations divines. Aujourd'hui, un autre monde s'invite à la fête pour virer tous les rêves d'hier comme des malpropres. L'appel du muezzin a un accent de sommation. Ce qui était sacré est devenu létal, ce qui a été apaisant est devenu viral, et ce qui fut fraternel a fracturé les familles et les tribus, élevant les uns au rang des purs et reléguant les autres au fin fond des caniveaux. Tout un peuple se réveille d'un long sommeil, passablement groggy, comme au sortir d'une cuite qui aurait mal tourné. Tout un peuple se demande ce qui lui arrive et oublie qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Bon, assez ruminé. Il faut que je me lève. J'ai un boulot qui m'attend de pied ferme et ça ne sert à rien de se court-circuiter les neurones au risque de cramer l'oreiller. Je m'extirpe de mon plumard, la gueule puante et les yeux bouffis, avec des courbatures partout et des fourmis au mollet, à croire que j'ai passé la nuit à faire du catch avec l'ensemble de mes frayeurs. Je ne me rappelle pas mon rêve, mais mes draps trop froissés et mon tricot trempé de transpiration témoignent des cauchemars que j'ai dû me farcir. Mina ronfle à côté de moi, un bout de nichon négligemment déployé sur la bordure du drap. Elle est loin, l'époque où elle m'embrassait au détour du plus innocent des attouchements. C'était le temps où j'avais l'orgasme à fleur de peau, où mon amour ardent pour elle dépassait l'entendement. Mina, c'était mon hymne du matin, mes sérénades du soir. Quand elle fondait dans mes bras, elle se diluait dans mon âme. Je lui avais fait un tas de promesses que ma condition de flic paumé ne m'a pas permis de tenir, mais je l'ai aimée autant que je l'aime aujourd'hui, autant que je l'aimerai demain, après-demain, et tous les jours, jusqu'à la fin de la vie. Et c'est justement parce que ma vie se joue à pile ou face, désormais, que je me fais du souci pour elle. J'ai peur d'être zigouillé au détour d'une ruelle et de livrer la plus belle histoire de ma vie au synopsis bâclé qu'ont élaboré, pour notre pays, des types avec des barbes si longues qu'elles se perdent dans leur toison pubienne. J'enfile mon costume de prolétaire, malgré lui, avale un breuvage aux arrière-goûts de rinsure, passe un bon quart d'heure à faire le guet derrière ma fenêtre au cas où un terroriste s'aviserait de m'exploser ma tirelire à préjugés. Apparemment, la voie est libre. À part un éboueur en train de ramasser une ordure qui sera immanquablement là demain, la rue est aussi déserte que le paradis. Il y a, de mon immeuble au garage où je range ma voiture, 200 mètres. Avant, je les parcourais d'une seule enjambée. Aujourd'hui, c'est une expédition. Tout me paraît suspect. Chaque pas est un péril. Des fois, j'ai tellement les jetons que j'envisage de rebrousser chemin. Le gardien est un type bien. Je lui fais de la peine. Dans sa modeste conception des choses, il me considère comme mort. Il est même étonné de me voir survivre au jour. Nous n'avons pas été assez proches, lui et moi. Nos rapports se limitaient à bonjour, bonsoir. mais il savait où me joindre quand il avait un pépin ou une contravention à effacer. Lorsqu'il débarquait chez moi, avec sa mine défaite, à des heures impossibles, je le rassurais de suite. J'étais le bon flic du quartier, constamment disponible et désintéressé, et mon gourbi, à défaut de faire figure de confessionnal, accueillait sans distinction de mœurs ou de race d'interminables cohortes de contrevenants. Je faisais sauter des amendes, restituer des permis de conduire, lever des écrous et réconcilier les uns avec les autres. J'étais un peu le bon samaritain, quoi. Le recours salutaire des récalcitrants. Puis on s'est mis à canarder mes collègues, et mon univers s'est subitement dépeuplé. Dans la rue, on fait comme si on ne me connaissait pas. Être proche d'un poulet, c'est s'exposer bougrement, surtout quand ça mitraille tous azimuts. Plus personne n'ose m'adresser un petit signe, pas même un regard furtif. Plus personne ne se souvient des petits services que je lui rendais, du guépier d'où je le tirais. Au pays des quatre vents, les girouettes voltigent. Désormais, je suis le flic. Un point, c'est tout. Je suis censé afficher mon statut de cible privilégiée et la boucler. Raison pour laquelle le gardien m'accueille avec des yeux funèbres et me raccompagne jusqu'à ma voiture comme à l'enterrement. Plus de révérences fébriles, plus de trémolo dans un « bonjour monsieur le commissaire », plus cette obséquiosité hypocrite et calculatrice qui le rendait presque sympathique. Le gardien de notre parking se permet même un cran de condescendance. Certes, il n'est rien, mais il ne risque rien, lui. Dans un sens, il prend sa revanche sur la hiérarchie sociale. J'arrive au central avec une heure de retard. Mesure de sécurité oblige. Il nous est impérativement recommandé de travestir nos habitudes et de ne jamais emprunter les mêmes routes. Le planton me saute dessus juste au moment où je franchis le seuil de l'établissement. « Le patron vous demande !»« Dis-lui que je viens de me faire descendre. » Je l'écarte d'une main agacée et m'engouffre dans mon bureau. Mon lieutenant Lino est là. Avant, il était le champion des absentéistes. Obstinément derrière ses petites magouilles, ses trafics d'influence et ses putains. Il avait compris qu'au sultanat des truands et du népotisme, un miracle, ça se négocie. Il touchait deux sous, ne bénéficiait d'aucun profil, d'aucune garantie. Le logement, il n'avait pas le trou du cul assez élastique pour l'obtenir. La petite famille, il avait évidemment la bite hardie, mais pas assez de couilles pour la fonder. Aussi se débrouillait-il, Lino, dans le brouillon qu'était notre société. Dans un bled où, pour acquérir un misérable frigo, il faut se lever tôt, on ne doit pas exiger de la sentinelle de veiller tard. C'est pourquoi, compatissant, je fermais l'œil sur ses agissements. Mais Lino s'est assagi d'un coup. Il est au bureau avant le planton. Normal, puisqu'il y passe la nuit. Il ne rentre plus chez lui, à Babelwed, depuis qu'un brelan de barbu est venu prendre les mesures de sa carotide pour lui choisir un couteau approprié. Traumatisé, le lieutenant. À peine s'il ose s'approcher de la fenêtre. Et le soir, quand il éteint pour dormir, il a tellement les pétoches qu'on recevrait le tintement de ses calculs du bureau d'à côté. Il est derrière sa machine à écrire, les cernes sur sa face de pierrot. Il n'a plus d'ongles aux doigts, plus d'expression dans le regard. Et il fait pitié à Pierre Fendre. Tu sais ce qu'il arrive aux gars qui se font trop de soucis, Lino? Ils auront des enfants chauves. Je sais même pas si je serai encore de ce monde demain. Ne te complais pas dans ton misérabilisme de victime expiatoire. Ça n'émeut plus personne. T'as reçu le BRQ? Ouais. Bilan. Deux écoles, une usine, un pont et un parc communal incendié. 43 poteaux électriques bousillés, deux faux barrages et deux enlèvements. Pertes humaines. Trois flics, un militaire en permission, un instituteur et quatre pompiers. Pourquoi les pompiers? Le cadavre qu'ils étaient allés récupérer était piégé. Eh ben...